Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 15 août 2025. 30 points. 30 points, c'est tout ce qu'un PPI nettement plus fort que prévu, nettement au-dessus des attentes, aura eu comme impact sur les marchés. Le S&P 500 a plongé de 30 points en 6 minutes, puis moins de 2 heures plus tard, tout était effacé pour finalement terminer au plus haut de tous les temps. Je crois qu'aujourd'hui, en 2025, il faut commencer à admettre que les marchés, les investisseurs, les traders, les économistes, le monde merveilleux de la finance dans son intégralité, sont devenus imperméables à la moindre mauvaise nouvelle. La seule et unique chose qui nous intéresse, c'est la baisse des taux, c'est le Graal, et ça nous donne l'immunité collective contre la baisse des marchés. Le PPI de juillet nous a donc collé une claque monumentale, attendue à plus 0,2%, il sort à plus 0,9%, soit la plus forte hausse de prix depuis juin 2022. Même en enlevant la bouffe et l'énergie, ça reste à plus 0,9%, trois fois plus que prévu. Bref, l'inflation qu'on croyait planquée sous le tapis était bien restée en embuscade. Sur 12 mois, on grimpe à plus 3,3%, bien au-dessus de l'objectif à 2% de la Fed. Et derrière cette flambée, les services, plus 1,1% en un mois, avec un joli plus 2% sur les marges commerciales, le tout dopé par des hausses de prix dans les machines, les frais de gestion de portefeuille, quand même plus 5,4%, et même les billets d'avion. Moralité, la vie coûte plus cher partout, et quand on sait que le PPI est un indicateur avancé par rapport au CPI, et que les droits de douane viennent seulement de prendre vie effectivement, nous n'en sommes qu'au début. Conséquence immédiate sur la nouvelle, les futurs se vautrent, les taux courts remontent, les marchés qui pariaient sur une baisse garantie des taux en septembre commencent à douter, la probabilité reste haute pour 25 points, mais les rêves de 3 baisses d'ici la fin de l'année viennent de se prendre une balle dans chaque genou. Pour l'instant, ce sont les entreprises qui supportent les coûts des tarifs douaniers de Trump, mais elles ne vont pas pouvoir tenir éternellement. Tôt ou tard, elles refileront la facture aux consommateurs et elles vont arrêter de rogner sur leurs marges. Et là, le CPI se mettra à ressembler au PPI, ce qui sous-entend que le consommateur n'a pas fini de subir les conséquences des tarifs de tonton Donald. À l'heure où je vous parle, on ne sait pas encore si Trump compte virer le nouveau patron du BLS, puisque lui aussi, il a sorti des chiffres tout pourris. Mais une chose est sûre, le plan qui devait se dérouler sans accroc jusque-là, jusqu'à Noël, commence à avoir un goût d'huître qui aurait passé un peu trop de temps sous la canicule. Par contre, la bonne nouvelle de la journée, c'est que même si le PPI est immonde et que l'on peut commencer à se dire que le CPI d'août va être horrible et que l'on est en train de se rendre compte par les chiffres que les tarifs douaniers, c'est quand même un peu inflationniste et qu'il ne suffit pas de virer des hauts fonctionnaires qui ne donnent pas des bons chiffres pour que ça s'arrange et que tout soit planqué sous le tapis, la bonne nouvelle, c'est que le marché n'en a rien, mais alors strictement rien à foutre. Je ne sais pas à quoi on carbure en ce moment, mais c'est une chose est certaine, c'est que ça doit être de la très très bonne, puisque peu importe la nouvelle, le marché monte quand même. Si on avait encore besoin de preuves, je crois que la séance d'hier on est clairement une. Alors oui, il faut reconnaître qu'il y a quand même deux ou trois conséquences. Le Russell 2000 s'est pris 1,2% dans les dents et soudainement le narratif, si les taux baissent pendant les 8 prochains mois, le capital sera moins cher et ça va être du velours pour les small caps. C'est passé à la trappe. Et si les experts s'attendent quand même à que Powell baisse les taux en septembre, ne serait-ce que pour calmer Trump qui commence à baver tellement il est foudrage, les scénarios avec une vision à plus de 6 semaines deviennent très compliqués à gérer, à moins d'avoir un don pour la lecture dans les tarifs douaniers. En résumé, hier, si t'étais petit, tu t'es fait laminer parce que les chiffres sont pas bons. Mais si t'étais Netflix ou Amazon, tu sauvais la baraque. Et encore une fois, s'il était nécessaire de le prouver, la Big Tech est devenue l'Alka-Seltzer contre le mal de tête des marchés et le Mars des investisseurs, puisque un Mars et ça repart. Bref, le PPI était pourri, mais le marché s'en fout d'une force. C'est assez sidérant. J'insiste peut-être un peu lourdement, mais normalement, ce genre de nouvelles flingue les marchés. Et pourtant, le S&P 500 a signé un nouveau record en fin de séance et le Nasdaq a fait du surplace. Nous sommes soit indestructibles, soit nous vivons dans une autre dimension où le pessimisme et les marchés qui baissent sont interdits sous peine d'emprisonnement et de devoir écouter du Aya Nakamura pendant les 10 prochaines années. Et nous sommes le 15 août 2025. Il fait très chaud. Et le S&P 500 est le plus haut de tous les temps, alors que l'on vient d'apprendre que l'automne des consommateurs va être très très dur. Pendant ce temps, Berkshire Hathaway, qui jouait à cache-cache avec la SEC depuis un moment pour ne pas divulguer ses derniers achats, les fameux Mystery Stocks de Buffett, ne sont plus un mystère. La société de Warren Buffett a donc acheté United Health, Lennar, D.R. Horton et Nucor, pas exactement du rêve technologique, mais plutôt du solide, du Middle America, des maisons, de l'acier, de l'assurance santé qui s'est fait déglinguer depuis plusieurs mois. Comme quoi, Buffett préfère parier sur l'Américain moyen qui construit, se soigne et boit de la bière devant le foot, plutôt que sur la dernière avancée technologique que personne ne comprend vraiment. Un peu comme il l'avait fait en 1999. Quand tout le monde se foutait de lui parce qu'il n'avait pas chargé son fonds en télécom et internet parce qu'il n'y comprenait rien. L'oracle a aussi vendu un gros bout d'Apple et de Bank of America. Traduction, Buffett lui aussi fait son ménage de printemps, même au mois d'août. Et puis alors, on a eu l'affaire Intel. Alors ça, c'est absolument mythique et c'est un terrain de jeu absolument fabuleux pour ceux qui ont envie de se lancer dans le complotisme et les opérations d'initiés initiées par le gouvernement américain. Intel a pris 7,4% hier sur une rumeur que le gouvernement US pourrait entrer au capital. Oui, vous avez bien lu. Après les nationalisations des banques en 2008, voici venir la nationalisation des semi-conducteurs. Le projet, c'est de faire de l'Ohio le nouveau centre du monde pour les puces, histoire de ne plus dépendre de Taïwan. Et comme Trump adore les grands projets patriotiques et les caméras, ça sent le deal Make Chips Great Again. Imaginez le tableau, Intel sponsorisé par la Maison Blanche, prochaine étape des CPU vendus avec une casquette rouge MAGA en cadeau dans le carton d'expédition. Mais là où ça devient vraiment super drôle, c'est quand on se rend compte qu'il y a une semaine, Trump y traite le CEO d'Intel de communiste et estime qu'il collabore avec la Chine. Le titre se fait démonter et touche les 18,55. Puis, quelques jours plus tard, Trump invite le même CEO d'Intel à la Maison Blanche. Le titre remonte et maintenant on parle de participation du gouvernement. Hier soir, le titre a clôturé à 23,86, 25% de performance en une semaine sur de la manipulation boursière et médiatique. Mais bien sûr, ça ne choque personne et tout est normal. Hier, c'était encore une journée parfaitement normale à Wall Street. Normal pour un marché qui marche sur la tête et qui semble avoir mis sa rationalité et sa logique de côté. Ce matin, en Asie, c'est la foire d'empoigne. Le Japon caracole en tête, le Nikkei a repris 1% et flirte encore avec ses records historiques portés par un PIB qui surprend tout le monde. Un PIB qui s'affiche quand même en hausse de 1% alors qu'on attendait péniblement plus 0,4%. Moralité, malgré les coups de massue tarifaires venus des USA, les Japonais exportent encore comme des fous et investissent comme s'ils imprimaient des yens dans leur salon à volonté. Résultat, la Banque du Japon pourrait se sentir poussée des ailes pour resserrer un peu la vis. Du côté de la Chine, c'est la gueule de bois. Production industrielle molle, vente au détail qui traîne la patte. Et du coup, le Hang Seng dégringole de 1,3%. Shanghai s'en sort encore un peu mieux avec plus 0,5%. Mais ça sent quand même la consommation en berne et le ralentissement industriel. Ce qui, entre nous, soit dit, c'est pas vraiment nouveau en Chine. Du côté du pétrole, on serre les fesses en attendant les résultats du match de catch dans la boue de la journée. Trump et Poutine ont le destin de la planète entre leurs mains. Ils vont essayer de la rendre un peu plus pacifiste, même si je me rends compte en écrivant cette phrase qu'elle n'a strictement aucun sens. Néanmoins, les conclusions de la rencontre pourraient avoir une influence sur le prix du baril qui oscille toujours entre 63 et 64 dollars. L'or est à 3 390 $. Le bitcoin se traite à 118 000 $ et des poussières, en repli après ses records au-delà des 124 000. La faute à Bessent, encore lui, qui a déclaré que l'État ne comptait pas faire ses course en bitcoin, du moins pas pour l'instant. Il a quand même rappelé que l'oncle Sam possède déjà sa petite tirelire sous le matelas, une réserve stratégique de bitcoin uniquement composée de tokens saisis dans des affaires judiciaires et qui pèse entre 15 et 20 milliards de dollars. Du côté des rendements, le 10 ans américain se trouve à 4,27. Côté politique monétaire, on parle toujours du duel Trump-Powell qui ressemble à un match de catch truqué. Trump veut des taux bas pour financer ses rêves et accessoirement ses déficits. Powell, lui, il fait mine de résister, mais on sait déjà qu'il pliera en septembre. Une baisse de 25 points de base est quasi certaine, les marchés la veulent, Trump la réclame, et Powell va lâcher du lest. Le problème, c'est qu'avec un chômage encore bas et une inflation qui repart, couper les taux, c'est comme arroser un barbecue avec de l'essence pour essayer de l'atteindre. Mais bon, qui a dit que la logique avait encore sa place à Wall Street? Pas moi, en tout cas. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez toujours aller voir la vidéo de ce matin sur Zone Bourse. On y parle de la Fed et de son agent infiltré Steven Miran. Et puis au milieu de tout ça, ce matin, on parle aussi des Magnificent Seven. Howard Marks, un célèbre fund manager américain, estime que non, ces sept-là ne sont pas surévalués. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia, Tesla, ça vaut cher, mais c'est mérité. Des marges de fou, des produits que tout le monde utilise tous les jours et une domination mondiale. L'utilisation tous les jours d'une Tesla, c'est pas sûr de mon côté. Le vrai problème, selon lui, c'est les 493 autres boîtes du S&P qui se payent en moyenne 22 fois les bénéfices sans avoir le quart du flow des Mag 7. En clair, les stars ne sont pas chères, c'est la figuration qu'il est. En gros, c'est pas la bulle des dot-com de l'an 2000, mais une bulle de tout le reste si on écoute. Et puis pour terminer, on notera que Applied Materials a tiré la sonnette d'alarme hier soir. Les prévisions du chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre seront bien en dessous des attentes, autour de 6,7 milliards de dollars contre les 7,33 milliards espérés par les stars de la finance. Le résultat aurait été immédiat, l'action s'est pris une claque de 11% after close. Le problème vient surtout d'une demande complètement erratique, coincée entre restrictions US vers la Chine et clients qui digèrent leur capacité. Le CFO parle même de demande non linéaire. Il faut comprendre, ça va, ça vient, et en ce moment, ça vient pas. Ironie du sort, au troisième trimestre, le groupe avait encore sorti une croissance de plus 8% à 7,3 milliards, au-dessus des prévisions. Mais l'euphorie a disparu et tout le secteur est sous tension. ASML avait déjà prévenu que 2026 pourrait être une année blanche, faute d'investissement clair aux USA, et avec la guerre commerciale en toile de fond. En clair, le boom des semi-conducteurs n'est pas mort, mais pour l'instant, c'est pas encore la rentrée scolaire. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est assez simple. D'ici fin août, tout le monde attend Nvidia et Broadcom comme le Messie. Powell joue sa survie politique. Trump veut sa victoire médiatique et il l'aura. Et le marché continue de grimper en fermant les yeux sur la logique économique. On vit dans un marché où l'inflation revient, où Trump rêve d'être PDG d'Intel, où Buffett se cache pour acheter des actions et où le S&P bat des records en ignorant 70% des entreprises qui se traînent. Elle est pas mal la vie dans le monde merveilleux de la finance. Mais pour le reste, aujourd'hui, nous aurons le PIB en Suisse. PIB qui sera calculé par le Bureau of Labor Statistics américain avant les droits de douane de 39%. Et oui, c'est toujours en vigueur, au cas où vous auriez oublié. Et puis, il y aura aussi des ventes de détail aux USA, les retail sales, comme on dit, histoire de voir si la consommation se fait aussi laminée par les droits de douane. Il y aura aussi la production industrielle, les business inventories et le New York Empire State Manufacturing Index. Je préviens d'ailleurs d'avance, aucune mauvaise nouvelle ne sera acceptée par le marché. On ne prend que les bonnes et les autres, on s'en fout. C'est la nouvelle norme. Et puis, n'oubliez pas, dans quelques heures, il y aura le sommet d'Anchorage. Et ça va être drôle. Ça fera de toute façon monter le marché, mais ça va être drôle. Passez une très belle journée, un très très bon week-end. Et pour ceux qui veulent se faire un récap de la semaine, demain, il y aura le Swiss Bliss sur la chaîne Swissquote en français qui sera publié vers 12h30. Et pour le reste, on se voit lundi.